Vous êtes bien sur le 93.9 FM, vous écoutez RNG.
First, the basics of particle blast deflection.
Dude, I could beat gaming.
Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans RNG Radio Campus Paris 93.9 FM. Bonne année Ulysse, bonjour Ulysse, comment estas?
Salut Cyril, bonne année à tous et à toutes du coup.
Meilleurs vœux, plein de jeux vidéo sous le sapin, ça va être une année de ouf et on sera là pour analyser tout ça. Et aujourd'hui, c'est pas un épisode spécial comme on a l'habitude de le dire. C'est un épisode consacré à un seul titre, et oui, comme on a pu le faire avec Returnal, comme on a pu le faire avec Disco Elysium. Mais cette fois-ci, c'est un peu différent, c'est un peu en réponse, j'ai envie de dire, c'est vraiment plus lié à l'actualité. Parce que si on doit retenir un seul jeu de 2025, en termes d'événements culturels, c'est quoi le jeu qui a fait événement en 2025? Bah, c'est un peu compliqué de passer à côté de Clair Obscur Expedition 33, jeu sorti le 24 avril, je crois. Je crois que c'était ça, fin avril 2025. Cocorico, jeu de Montpellier, shout-out MTP, fait par une petite team, voilà, Sandfall Interactive, je cherchais le nom. Donc, voilà, y a tellement eu un événement culturel autour du titre qu'on s'est dit on était obligé de consacrer un épisode au jeu, en fait, parce que...
On n'a pas vraiment abordé dans notre bilan 2025. Que moi, il est dans mon top 10, pas top 5, mais à ce moment-là, tu l'avais commencé quand on a enregistré l'épisode avec Jules. Mais ouais, on s'est pas attardé dessus. C'est pas un jeu dont on avait à ce moment-là grand chose à dire. Et je pense que ouais, les Game Awards, c'est un peu le comme c'est la consécration. Le jeu a donc gagné jeu de l'année et 8 autres prix. C'est le jeu le plus récompensé de la cérémonie des Game Awards depuis qu'elle existe, hein, depuis qu'on est en JeffCon 1 chaque hiver. Et ouais, forcément. Ça interpelle de pourquoi le jeu a autant de succès et qu'est-ce qui fonctionne et qu'est-ce que ça dit de l'industrie en fait.
Oui, c'est ça, parce que là le jeu a atteint. De base, on portait pas spécialement d'importance au Game Award, mais au bout d'un moment, le jeu fait tellement un peu consensus, il a tellement tout raflé d'un coup que c'est pas juste un événement, juste une petite parenthèse quelque part. Non, le jeu a vraiment fait l'événement. Et voilà, RNG, quand il y a un événement culturel dans le jeu vidéo, on l'analyse, tu vois. Donc voilà, je sais que toi, Ulysse, c'est un jeu que tu as fait à sa sortie.
Ouais, du coup, je l'ai fait à sa sortie sur le Game Pass. Parce que c'est un jeu qui faisait partie du Game Pass, comme des Hollow Knight Silksong ou des Outer Worlds 2. C'est quand même, pour rappeler que le Game Pass, c'est quand même intéressant là-dessus. Parce que là, il avait donc le jeu de l'année Day One. Et j'ai fait, ouais, genre 10 heures, je crois, sur PC. Parce que je me rappelle, j'ai même fait un tweet quelques jours après pour dire que le jeu est cool, mais techniquement, il y a des petits soucis sur PC, le DLSS marche pas très bien, tout ça. Et ensuite, on me l'a offert, du coup, pour mon anniversaire, un ami, shout-out à Sofiane, justement, qui me l'a offert sur PS5. Et là, du coup, j'ai repris le jeu depuis le début, donc j'ai refait quasiment à chaque fois l'acte 1, enfin encore. Et là, je l'ai fini en 35 heures. Voilà.
Ok, moi de mon côté, c'est un peu assez différent du Ulysse, puisque moi je suis passé un peu après tout le monde. Clairement, je l'ai commencé, je crois, 10 jours avant les Game Awards, c'est-à-dire tout avait déjà été dit sur Clair Obscur Expedition 33. Donc, de base, c'était pas un jeu qui m'attirait spécialement, que ce soit en termes de présentation, tout ça et tout. De toute façon, on va expliquer, on va faire une critique juste après. Mais c'était pas un jeu qui m'attirait spécialement, et là, en fait, c'était juste, je pouvais juste pas passer à côté en fait, tout simplement. Donc je l'ai fait de manière, j'ai pas envie de dire expéditive, j'ai essayé vraiment de m'immerger dans l'œuvre. C'est vraiment un jeu que j'ai fait en un mois et demi, je l'ai commencé début décembre, et voilà. Donc c'est vraiment très frais dans ma tête, je pense, comparé à Ulysse, mais du coup on a un rapport assez différent. Ulysse est un peu, on va dire, passé avant le tremblement de terre, et moi je suis vraiment passé bien après, quoi. Voilà.
Du coup, dans un premier temps, ce qu'on va traiter avec Swill, c'est l'identité de Clair Obscur. Dans l'idée, c'est qu'est-ce qui fonctionne et résonne chez le grand public. Et pour ça, j'ai aussi un peu envie de rappeler son contexte de création. Du coup, ouais, le jeu est sorti donc le 24 avril. Et depuis, le studio, notamment c'est Guillaume Broche et, et d'autres créateurs du studio donc de Sandfall, Tom Guillermin et François Meurice, ils sont passés un peu partout, on les a vus sur Combi, dans l'émission Les Clermes, ouais, sur Click. Donc ils ont un peu parlé sur plein de différents médias et tout du jeu. Au début, des médias très spécialisés JV, hein, quand le jeu est sorti, que ça a été juste un beau succès parce qu'il s'est vendu très bien, très vite.
Chez les streamers surtout, je me souviens, ils ont un peu tourné. Chez MV et tout ça.
Ils sont passés, voilà, genre, dans Les Termes, l'émission du jour du grenier, avec Seb du grenier également. Du coup, ils ont parlé pendant 1h40 du jeu, tout ça. Donc ils ont eu le temps de passer donc, sur ces médias spécialisés JV. Et après, ils ont été reçus par les grands médias quand le jeu a été sacré jeu de l'année. Là, en mode, ah, faut s'y intéresser, c'est un petit phénomène français et tout. Et donc, pourquoi est-ce que le jeu fonctionne, au-delà de son contexte de création? Moi, j'ai noté un énorme point, genre j'ai mis un gros 1, en mode, c'est la raison principale, qu'il étaye le narratif de David contre Goliath. Et je pense que, pour moi, c'est ce qui résume le plus le jeu, c'est quand on parle de Clair-Obscur, la première chose qui ressortait surtout à sa sortie, moi, c'est le truc où... Vraiment, je l'ai installé du coup, day one, je me rends compte là, c'était le 25 avril que j'ai fait un tweet en disant « Ah, l'acte 1, il commence hyper fort et tout, la DA est cool, mais... » et tout. Et ouais, genre, les gens disaient « Non, mais c'est un jeu indépendant, fait par 25 personnes à Montpellier, qui est au niveau des standards d'un triple A, ça n'a pas de sens, ça met une leçon à l'industrie et tout. » Ça, c'est un peu les trucs qu'on pouvait lire ou qu'on entendait à ce moment-là. Et pour moi, du coup, ça déjà, c'est intéressant parce que c'est... En fait, en faisant ma recherche, je me suis rendu compte que c'est pas vraiment un jeu indépendant, mais c'est pas non plus totalement un double A. Il y a un truc hyper hybride avec Clair-Obscur qui est que...
C'est une chimère un peu chelou.
C'est ça. C'est un jeu hybride, en fait. C'est-à-dire que Sandfall, c'est un studio indépendant, mais donc qui est édité par Kepler Interactive, et Kepler, la particularité, c'est que c'est une sorte de société collaborative. C'est-à-dire que c'est assez particulier, je sais pas trop c'est quoi le statut de l'entreprise, mais l'idée, c'est... On s'entraide, chaque studio vient, il y a une sorte un peu de bail où on fait des financements, la thune et tout, il y a une structure, mais genre même s'ils leur répondent qu'il y a un cahier des charges, tout ça, le jeu, le bébé, leur appartient. C'est pas genre, on travaille pour, c'est on travaille avec, entre guillemets. Donc c'est un peu ce bail hybride entre donc AA et jeu indépendant, que c'est ce qui fait la force de Clair-Obscur et ce qui a beaucoup été mis en avant. Et quand on entend Guillaume Broche et l'équipe en parler, c'est tout le monde vous dit, c'est un jeu passion. C'est aussi ça le narratif, c'est que c'est deux anciens d'Ubisoft, donc une grosse machine que tout le monde aime détester en fait, hein, maintenant, tout le monde aime taper sur Ubisoft, peu importe ce qu'on en pense, c'est populaire de dire l'open world d'Ubisoft c'est de la merde, leurs jeux sont répétitifs, ils sont vides, ce que vous voulez. Et donc là, de dire que bah, deux mecs s'en vont de cette usine pour se dire « Ok, on a un rêve, on veut faire un petit jeu », au début le projet s'appelle We Lost, Guillaume Broche fait ça sur Unreal 4, puis en fait ça commence à grossir, ça passe sous Unreal 5, et après, donc 5 ans plus tard, ils sont en mode, bah ouais, le jeu là est sorti et c'est un phénomène. Donc il y a cet événement de ouais, David, qui est du coup Clair-Obscur, face à l'industrie, face au gros nom en fait du jeu vidéo, et de dire que lui, il se fait sa place et en fait, il prend tout sur son passage.
Ouais, excuse-moi, juste ouais, là, le jeu a une sorte de gros storytelling en fait, avec lui qui l'emporte, une sorte de momentum. J'ai envie de dire, dès sa sortie, et vraiment, dès le début, en fait, ça ne s'est jamais vraiment arrêté. C'est-à-dire jusqu'au Game Award, Clair-Obscur était vraiment très souvent dans toutes les discussions, et le jeu, la consécration qu'il a pu avoir en décembre, lors de la cérémonie, ça a été un peu, voilà, une sorte de... C'est bon, ils ont gagné, tu vois, il y a un peu le côté de... Le storytelling, c'est bon, il y a une fin à tout ce chapitre Clair-Obscur.
Après, ce qui a appuyé aussi également, du coup, ce narratif-là, c'est l'idée de, comme on a dit, c'est genre, apparemment, il y a 50 employés de Montpellier. Après, il y a aussi, du coup, ça on le sait, des équipes freelance. Ils ont cité qu'il y en avait en Corée, qu'il y avait des acteurs externes en Pologne. Donc, on sait qu'il y a plein de petites parties. Je crois que c'est notamment pour le gameplay, les animations de combat qui avaient été externes au studio et tout. Après, ils ont fait beaucoup de choses en interne, évidemment. Mais voilà, ils avaient besoin d'une force de frappe un peu plus dense que juste l'équipe de Montpellier. Et le dernier élément vis-à-vis de l'équipe et du studio, moi, c'était la scénariste qui a été trouvée sur Reddit.
Qui est d'origine américaine, d'ailleurs.
Ok. Je savais pas, tu vois.
Si.
Et bah, hop, avec un post sur Reddit, ils trouvent la scénariste. Et comme tout le monde le sait, le jeu est quand même plébiscité pour son écriture. Donc, ouais, il y a un peu ce truc de pas self-made man, mais narratif de putain, c'est des petits mecs dans un garage qui se chauffent, qui se disent allez, toi, viens, je te prends, t'es passionné, t'es chaud. Même si on est des juniors, on a la niaque. Et ouais, ils arrivent à croiser Geoff Keighley, à lui taper un check, à être reçu par même Nvidia, et à être en mode, ouais, du coup, l'Unreal 5...
Hideo Kojima aussi.
Ouais, voilà. Ils ont fait une espèce de tournée en Asie pour aller voir plein de développeurs, et ils disaient que c'était des rêves de gosses.
Parce qu'ils ont inventé le RPG, du coup.
Exactement. Et voilà. Et maintenant, pour parler vraiment du jeu en tant que tel, je pense que là, après, je vais aussi laisser peut-être Swill évoquer d'autres trucs, mais par exemple, je pense que le système de combat, je vais te laisser en parler, mais s'il fallait parler de la direction artistique, il y a un terme que j'aime bien qu'a utilisé Kokobe de Canard PC dans son test, c'est pour lui, c'est tel un bain trop chaud, il faut s'acclimater à la proposition, en parlant de la DA de Clair-Obscur. Pour lui, en disant, parce que lui, il avait mis 8 sur 10 au jeu, et il trouve que ce soit visuellement ou les musiques ou autre, il dit, il y a un truc où tu te dis, putain, est-ce que c'est pas de mauvais goût, est-ce que c'est pas kitsch? Et pour parler du coup de la réception du titre et pourquoi ça plaît, je pense que non, les gens ne trouvent pas ça de mauvais goût, hein, si on veut être assez objectif là-dessus. Ça plaît. Et ouais, genre, moi, je trouve que le jeu arrive, si je dois le féliciter là-dessus, c'est qu'il est quand même très diversifié et varié en termes de panorama. Il y a pas mal de zones différentes, il y aura des forêts rouges, des trucs un petit peu art déco, ok, classique, mais ça va vachement changer selon les zones, genre l'océan sans eau, tout ça. Il y a vraiment une variété dans les décors qui est assez cool. Et ça, ça a plu. La musique orchestrale fait par donc Lorient Testard et ses potes Alice, je ne sais plus comment elle s'appelle. Mais bref, Noir Particule.
Noir Particule.
et un autre bug, voilà. Donc ils ont été reçus aussi pour parler de la BO et ils ont fait un taf qui a été aussi acclamé aux Game Awards. Donc l'enrobage du jeu plaît, l'histoire plaît, les personnages plaisent. Et le gameplay plaît aussi, je vais laisser Swill en parler.
Ouais, c'est ça, parce que moi, en réalité, je pense que s'il y a bien un élément sur lequel le jeu fait une sorte de consensus, moi, je trouve, dans les débats, c'est vraiment autour du gameplay. Je pense qu'il y a plus de débats sur le scénario et l'écriture du jeu. Je trouve que s'il y a un truc où vraiment, ouais, genre, le jeu marche, et c'est quand même la base dans un jeu vidéo, c'est vraiment le gameplay et le système de combat, en fait. Il y a vraiment cet aspect, moi, que je trouve vraiment agréable avec Expedition 33, c'est un jeu qui, dans ses combats, genre vraiment regorge d'idées. Et là, on fit un peu avec voilà, le storytelling de c'est un jeu de passionné. Tu sens que c'est des devs, ils se sont pas refusés, en fait, ils se sont vraiment laissés aller dans la proposition. Et en termes de gameplay, ça se ressent vraiment le côté de chaque personnage pourrait être limite, c'est-à-dire chaque personnage dans le gameplay, que ce soit du coup bah, Gustave, Maël, Lune, Ciel, Verso, Monoko, je sais plus comment ça s'appelle.
Ouais, c'est ça.
Monoko. Ils ont chacun leur mécanique. On se dirait, purée, mais chaque personnage pourrait être limite chaque mécanique pourrait être genre vraiment. Le jeu pourrait se suffire à cette mécanique-là et ce serait très bien en fait. Et chacun a son chouchou. Moi, ça que je kiffe en fait avec ce jeu, je pense en termes de gameplay, c'est le jeu laisse une forme un peu de flexibilité d'approche. J'aime beaucoup le fait que le jeu ne se refuse pas en mode ok, on va avoir un peu un trio. Du coup, le jeu fonctionne en trio, c'est des combats à trois et on a toujours une équipe de réserve du coup en backup team au cas où notre première team meurt. Et je trouve que du coup, le jeu a maintenu cette générosité-là et surtout en termes d'approche pour les personnages. Je pense à voilà, des personnages comme Maëlle vont avoir, on va dire, je sais qu'elle fonctionne beaucoup avec les contres. Lune, elle va avoir cet aspect un peu healer très classique du RPG, tout ça. Verso, ça va être un excellent DPS. Ciel, j'en parle même pas, c'est peut-être le personnage le plus craqué du jeu en termes de gameplay. Mais donc en plus, chacun un peu peut avoir ses chouchous et en termes de, j'ai envie de dire, de deck building, en plus, j'ai l'impression, avec les compétences, le jeu est vraiment assez généreux. On peut vraiment tourner le jeu un peu à notre sauce comme on veut. Et je pense que chacun peut s'y trouver, en fait, dans le gameplay.
Ouais.
Et en réalité, j'ai commencé à analyser, on va dire, un peu la structure du gameplay. Le jeu a quand même, on va dire, des. C'est pas un jeu qui réinvente la roue. Franchement, ça, c'est comme on l'a dit, c'est un jeu qui on sent énormément d'inspiration. Et en termes de gameplay, je veux dire, chaque personnage a son arbre de compétences. On a le système de Picto et de Lumina qui vient un peu enrichir les builds qu'on peut faire. On a un système d'upgrade d'armes, un système de level assez classique avec force, défense, agilité, chance, tout le bagage classique d'un RPG. Et derrière, en fait, c'est un jeu qui va aussi prendre aussi l'aspect, on ressent aussi beaucoup l'inspiration de Persona, je pense que ça choque personne qui, pour ceux qui connaissent la série, c'est vraiment l'aspect dynamique de la chose, parce que Clair-Obscur est un RPG au tour par tour, et c'est un élément qui, surtout en Occident, peut faire peur. C'est vraiment un genre qui, voilà, le tour par tour, très souvent, les gens qui sont en Europe, aux États-Unis, c'est pas trop trop leur cam. Et le jeu, en fait, a réussi à trouver, on va dire, cette dynamique-là, en, je trouve, en venant, et c'est pas un reproche, en venant casualiser la formule avec un système de, bah, de contre et d'esquive qui, du coup, genre, vient dynamiser vraiment, vraiment la boucle de gameplay. On n'est pas là, genre, juste à attaquer et subir des dégâts au prochain tour. Non, vraiment, genre, on est constamment manette en main. Et après, il y a des questions, des problématiques, genre, qui sont assez intéressantes, je trouve, avec l'ajout d'un système de contre, parce que ça vient, il y a un côté, si tu maîtrises les patterns un peu, c'est un côté un peu, j'ai envie de dire, FromSoft, en mode, apprends les patterns de ton ennemi, et tu t'en fiches un peu de l'aspect RPG, du coup, parce qu'il y a un côté de, à quoi bon faire un build défensif, imaginons, d'utiliser, je sais pas moi, le sort de carapace, plein de sorts différents, genre, même les esquives, genre, juste, apprends à contrer, tu vas faire plein de dégâts, du coup, ça peut... On sent que aussi que c'est un premier jeu, on sent que c'est un jeu qui tente énormément de choses en termes de gameplay. C'est loin d'être parfait, mais ce qui est sûr, c'est que pour un premier jeu, pour une première team, il y a de la sauce. Il y a de la sauce, le gameplay. Franchement, vachement fun. Et moi, je pense que c'est l'élément qui m'a le plus vraiment fait continuer le jeu de bout en bout. Et voilà.
Non, bah ouais, en plus, j'ai beaucoup réfléchi justement au système de combat. Et moi, je trouve que la parade, finalement... C'est faux parce que c'est l'anecdote d'un joueur qui a passé 8 heures sur un boss. Ça arrivait là il y a quelques jours à un mec qui a fait genre 10 500 parades contre un boss et qui a réussi à le battre alors qu'il était à un niveau entre guillemets d'XP et tout pas très élevé vis-à-vis du boss. Et je me suis dit, le fait est que le jeu quand même puisse te permettre de pas lui rouler dessus parce que vas-y, être là pendant 8 heures à faire 10 000 contre, je pense qu'il faut se les caler, tu vois. Mais que du coup. Il y a un côté assez permissif en mode un peu comme un Zelda Breath of the Wild où tu sais, si t'as un donjon, tu dis ah bah je suis assez malin avec les mécaniques que me propose le jeu, je peux entre guillemets le niquer en fait. Et je trouve ça assez cool. Là où au début je me disais ah peut-être c'est vrai que ça va à l'encontre des mécaniques de RPG où tu te dis bah à quoi bon mettre tel ou tel picto, lumina et tout si juste par du skill brut tu peux un peu forcer le jeu. Et je pense qu'il y a quand même un dosage qui fonctionne très bien au point où. T'étais pas bloqué juste par un ennemi trop fort. Pour moi, ce serait un moins bon level design. Et ce que, par exemple, fait pas FromSoft, ou FromSoft, c'est genre, si un boss est trop fort, oui, il va te dire que tu peux, genre, en effet, apprendre le pattern, et du coup, passer très très longtemps dessus, ou juste aller prendre de l'XP ailleurs et tout. Mais en général, il y a ce truc de, connais le boss, tu peux le battre, dans l'idée. Et je trouve ça, du coup, assez cool que le système de parade, quand même avec les animations qui sont hyper tricky, genre... Enfin, ça, c'est un des éléments qui m'a beaucoup frustré, moi, sur ma run, et que j'ai appris à apprécier. C'est le travail d'animation vis-à-vis de la lecture des combats. C'est qu'en fait, quand un ennemi vous attaque, il faut plutôt faire attention au bruit plutôt qu'au visuel. C'est-à-dire qu'il va faire beaucoup de feintes, en fait. Il fait un peu des petites béquilles et tout, en mode...
Genre, il va tenir son épée en haut, comme ça, et genre, il va rester 4 secondes, et toi, t'es là en mode... Ah, c'est quand qui
drop. Et j'aime beaucoup ce sentiment où tu te dis, putain, quand est-ce qu'il va attaquer? Du coup, tu veux contrer ou esquiver trop tôt, donc tu te prends des dégâts. Et en fait, quand tu fais attention au sound design, t'as l'indice pour savoir quand est-ce qu'il faut finalement aller contrer. C'est toujours un petit bruit qui te permet d'être beaucoup plus réactif. Et je trouve ça, du coup, très très chouette. Quand j'ai vu un mec dire, ah, ben, t'sais, limite, un peu à la... Je sais pas... Monsieur Miyagi dans Karate Kid, ferme les yeux, écoute. Et j'étais en mode, ok. Et non, ça fait partie, ouais, comme toi, je pense, des éléments que j'aime le plus, c'est que le gameplay, ouais, Kokobe dans sa review sur Canard PC dit, ah bah, justement, le côté David contre Goliath, en mode, vous êtes là, donc vous avez vos trois joueurs, trois personnages, il en reste plus qu'un, l'OHP et tout. Et là, d'un coup, tu te prends genre 2-3 attaques de différents monstres et tu fais que enchaîner, genre, les contres, les parades, un peu d'esquive. Et t'es là pour essayer genre de niquer tout le monde, à dire ok c'est mon dernier souffle, avec la musique qu'il a à ce moment, je trouve extrêmement bien. Il y a un souffle aventurier hyper fort. Donc ouais, je pense que pareil, ce système de combat, c'est ce que je préfère le plus dans le titre.
Je sais qu'on parle beaucoup du premier acte de Clair Obscur, et ça c'est quelque chose où vraiment je suis d'accord, et je vois en quoi ça fonctionne en fait chez le public, où très souvent on le dit dans le jeu vidéo, la first hour experience est vraiment assez déterminante pour savoir si le joueur, sauf si c'est un jeu sur le Game Pass ou qu'on teste un peu, voilà, à la va-vite, genre, le jeu commence très très fort. Il y a quand même un truc où, surtout en termes d'appel à l'aventure, l'univers, on y croit rapidement, en fait, on est tout de suite pris, j'ai l'impression, dans ce côté, dans ce récit un peu mythologique. On a l'impression, c'est un peu comme l'Odyssée, j'ai l'impression, voilà, on part avec notre protagoniste, Gustave, à l'aventure, Il y a un côté, hein, limite, on se bat contre une sorte de divinité qui est la peintresse. Et voilà, tout cet aspect, voilà, de fatalité. Il y a un truc un peu, mythe grec, moi, que j'aime bien. Et je pense que ça revient à des bases assez classiques, voilà, de t'appel à l'aventure, des choses qui résonnent chez... peut résonner chez pas mal de joueurs.
Ouais, qui sont universels.
Voilà. Et moi, je pense en termes de présentation, c'est pas au même niveau, mais en termes d'appel à l'aventure, il y a un peu ce côté, peut-être la première heure dans Rapture, le début d'un Uncharted 2. Pour moi, je pense pas que c'est au niveau de là, quand même, en termes de présentation, mais Clair Obscur, il y a ce truc un peu quand même de bol d'air frais dans le paysage vidéoludique, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu, les gens aiment bien se plaindre, il n'y a que des suites et des remakes. Là, on a quand même une histoire qui est quand même... le postulat de base est assez kiffant. Donc, et pour moi, la cerise, j'ai envie de dire, je sais que Ulysse va me rejoindre, c'est le protagoniste. Et on a fait un épisode sur les protas, à quel point ils peuvent être importants dans une aventure. Et Gustave, moi, ce que j'aime beaucoup avec ce personnage, c'est qu'il a quand même quelque chose d'assez moderne, en fait. Moi, j'aime beaucoup les dynamiques qu'il peut avoir avec les différents personnages. Du coup, genre avec Maël, par exemple, qui est du coup... Maël a été adopté par la famille de Gustave et du coup, ils ont vraiment une relation assez frère-sœur. J'aime beaucoup aussi la relation qu'il peut entretenir avec Lune. Là où Lune, on se dirait, genre, dans un RPG un peu classique, un peu vieux jeu en termes d'écriture, on se dirait, c'est peut-être la demoiselle en détresse, en mode elle est là, peut-être, c'est la healeuse. Elle est un peu, je sais pas, timide et tout, pas du tout. Genre en mode, il y a Gustave au début du jeu, il a deux doigts de se mettre une balle dans le crâne et c'est elle, genre avec sa détermination, tout ça qui le réveille et le choc. Il y a vraiment un côté de, oh ouais, c'est vraiment un personnage assez fort et qui réveille le prota, là où, de base, dans un RPG, je pense assez classique, on aurait eu un Sasuke Uchiwa classique shit nonchalant, nonchalant en mode mec trop beau, trop fort qui va aller tuer un Ulysse en fait, tu vois, de l'Odyssée, en mode ouais, il va aller buter les divinités. Tout seul comme un grand. Non, Gustave, il est un peu frêle. Moi, ça que j'aime bien avec lui, c'est qu'on l'a. Ouais. Moi, dès que j'ai vu, je me dis, ok, il est trop Robert Pattinson codé.
Ouais.
Et voilà, donc, il y a un côté de. Je sais que pas mal de gens le comparent à Cloud, je suis assez d'accord. Le côté un peu genre mec léger. Mec léger qui fit pas totalement avec les standards qu'on peut avoir d'un. Je sais pas, un mec dans Gears of War ou un autre jeu, quoi.
Bah, du coup, ça permet un peu de faire la transition vers la. Deuxième partie, juste un peu pour parler des défauts qu'on a sur Clair Obscur et un peu étendre ça à. C'est pas forcément des défauts inhérents au titre, c'est aussi des choses inhérentes un peu au genre qu'est le AA, mais ça on en parlera plus dans la conclusion. Justement, moi le plus gros problème que j'ai avec le jeu, c'est sa narration en fait. Je pense que Swill peut-être est un peu d'accord dessus. Je sais pas si tu l'as fini.
J'ai pas fait la toute fin, mais genre en termes de. Genre, je sais où ça va. Tu vois ce que je veux dire? En mode, je suis à 28 heures de jeu. Okay. Je sais qui sont les derniers personnages.
Parce qu'en gros, moi, le vrai problème que j'ai, c'est ça. Donc, on va spoiler. Je suis désolé si vous n'avez pas fait le jeu ou si vous ne le savez pas. Mais bon, un indice, c'est que le jeu s'inspire énormément de FF7. Et moi, je n'ai pas fait Final Fantasy 7 ou le remake ou Wintergreen. Mais je sais qu'il y a un personnage qui meurt. C'est un peu... Ça a été un choc à l'époque, tout ça et tout. Et en effet... On sait que du coup les devs sont extrêmement fans de JRPG, de Souls et tout. Donc il y a un choix de narration qui est fait. En vrai, c'est au premier tiers du jeu, hein, je crois que c'est au bout d'une dizaine d'heures, où du coup Gustave affronte un boss et du coup il périt à ce moment-là. Et la scène est assez bien mise en scène. Il y a tout un truc où tu penses que peut-être tu vas pouvoir faire quelque chose, mais en fait tu vois que tu te bats contre la fatalité. Genre c'est vain. Son sort est déjà scellé. Ça, c'est un moment de game design qui est plutôt cool. Mais en fait, Le problème que moi j'ai, et peut-être celui aussi, c'est qu'en fait, une fois que Gustave n'est plus là, il est remplacé par un autre personnage qui s'appelle Verso. Et je pense qu'il cristallise les défauts ou les reproches que j'ai envers Clair Obscur personnellement. C'est-à-dire que, comme Swill l'a dit, Gustave, c'est un personnage qui est tellement vrai. Il a une sensibilité, presque une fragilité, hein, j'ai envie de dire, qui est très française, mais dans le bon sens du terme. Il y a un truc où, quand moi j'ai commencé le jeu, donc c'était le 24-25 avril, je m'en souviens, mon ressenti c'était. Ça fait longtemps que j'avais pas vu, même là de souvenirs j'en avais pas, un jeu avec un ton aussi sombre, comment sur les chapeaux de roue, tu te dis putain c'est hyper dark, t'as l'impression qu'il n'y a pas vraiment d'espoir.
C'est un peu post-apocalyptique limite. Ouais. Genre,
le fait est que sur les 10 premières heures, tu reprends un peu espoir grâce à Lune, tu rencontres Ciel, tu dit allez, genre finalement on peut y croire, on va peut-être aller battre la paperasse. Et finalement, on te coupe l'herbe en disant il y en a un de la team qui va pas survivre. Il y a un truc assez morose et vraiment du coup très tragique en fait dans ce récit qui sait a touché beaucoup de monde. Et je trouve qu'en effet, pour moi, ça marche. Mais passer la mort de Gustave, donc le personnage de Verso, là c'est un Dark Sasuke. C'est un héros, je trouve, très manichéen, avec une mèche blanche, torturé, des beaux cheveux, qui a un peu de charme et qui, du coup, a l'air de pouvoir draguer tout le monde, sauf Maël, Dieu merci, au camp. Non, mais tu vois, il y a ce truc où...
oui.
Vraiment, quand il parle, donc il y a des séquences de gameplay au camp, où quand vous pouvez vous balader, améliorer vos compétences et tout, vous pouvez donc tisser vos relations avec les personnages secondaires. Et à ce moment-là, donc, il y a un niveau de relation qui évolue. Ouais, genre, le jeu sous-entend que, un peu comme dans un Mass Effect, tu veux avoir une relation intime avec tel ou tel perso, tu peux le faire. T'es en mode, bah, ok, sauf que c'est le seul personnage masculin un peu de la team, avec genre du coup 3-4 meufs, et t'es en mode, bon. Moi, ça fait partie des petits greffes que j'ai où je trouve que d'un coup, je trouve que c'est des défauts qu'il y a dans le JRPG de base, et je me dis, c'est l'un des problèmes que j'ai avec l'ère obscure, c'est qu'on le sauce, entre guillemets, beaucoup pour ses inspirations et ses influences. Et je trouve qu'il y a des très bonnes leçons qui tirent de jeux comme Persona, Mario et Luigi, genre des trucs comme ça, vu qu'il y a des rapports dynamiques de combat. Mais il y a aussi des poncifs vis-à-vis de ses protagonistes, ses romances, entre guillemets et tout. Je me dis, on aurait pu les éviter. Genre, vraiment, la façon dont le jeu évolue, après, donc vis-à-vis de Maël et Verso, surtout, vraiment, c'est un peu le cœur du jeu, hein, c'est Maël. Mm. Je sais pas ce que t'en penses, mais moi...
En fait, ça m'agace parce que j'aime bien Maël. Et je me dis, en vrai, ça aurait dû être elle le prota principal, mais ça marche pas comme ça. Mmh. Et juste, Verso ne fonctionne pas. Et je pense que si le jeu avait juste été avec un personnage comme Verso, je serais moins critique de ça, en fait. C'est-à-dire qu'il y a un peu ce côté rageant de... On nous retire, Gustave, on nous retire ce bol d'air frais, je trouve, en termes de protagoniste. Et c'est encore plus rageant où, ouais, on te retire un... C'est pas juste on te remplace par un mec random, non, on te le remplace par un Sasuke Uchiwa qui est vraiment vraiment il est chiant à mourir en fait, et je vois que Verso génère quand même pas mal de débats en mode est-ce que c'est un bon personnage et tout, est-ce que tu sais genre il y a un peu le côté dilemme entre lui et Maël et dans le scénario tout ça et tout, et genre pour moi genre c'est même pas la division qu'il y a entre Maël et Verso qui est intéressante, c'est vraiment ce qui me fait rager, genre vraiment notre truc, c'est vraiment le côté de purée, on m'a retiré le mec cool, tu vois, pour un random, et surtout moi aussi le reproche que je peux avoir avec le jeu, je trouve, c'est comment dès la mort de Gustave, en termes de scénario, on atteint aussi certaines strates dans l'univers dans lequel on est, où l'aspect un peu méta, en fait, on sort un peu de l'univers, tu vois, vraiment au premier degré, tu vois. Parce qu'il y a tout ce délire de « on est dans une peinture et tout, jouez au jeu, vous allez comprendre. » Et en fait, pour moi, le jeu, genre, perd un peu de son mystère, parce que je trouve que, du coup, les dynamiques qu'il met en place à partir de là, en sortant, on va dire, du coup, du tableau...
De lumière, ouais.
Ouais, voilà. Du coup, il perd en mystère, et en fait, on se trouve avec quelque chose qui se veut un peu méta, mais assez médiocre sur les bords, tu vois, surtout avec un discours sur l'art et tout qui est un peu Osef Thier, tu vois. Vraiment Osef Thier. Alors que de base, tu sais, genre pour moi, tu sais, genre, le postulat de base fonctionne, en fait. Il y a un côté un peu... le début du jeu, c'est un peu Bioshock 1, où il y a un côté de... On est émerveillé dès le début par Rapture, l'univers qui est mis en place rapidement par le jeu. Et dès que Gustave meurt, bah en fait, on passe à Bioshock Infinite. Et pas juste Bioshock Infinite, la fin de Bioshock Infinite, où en fait, tout devient un peu méta en mode, non, mais en fait, on est dans un monde plus grand. Et ça, genre, tu sais, genre, il y a eu Bioshock 1, Bioshock 2, Bioshock Infinite, et il faut attendre la fin de Bioshock Infinite pour atteindre cet aspect un peu, genre, ouvert et méta. Genre, Clair Obscur, il est dit, juste 10 heures et vas-y, fuck it, on casse les barrières de notre univers qu'on a mis en place. Et c'est vraiment dommage parce que le jeu perd en mystère et tout le monde, le continent, je crois qu'il l'appelle. Parce que t'as Lumière qui est là où vivent les habitants et genre tout le monde autour d'eux s'appelle le continent, bah il perd un peu en magie et c'est vraiment dommage. Et je trouve que même en termes de narration environnementale, moi c'est quelque chose sur lequel je mets énormément d'importance quand je joue un jeu, surtout un jeu qui se veut genre être un jeu d'aventure quand même, où on a vraiment un univers qui se veut assez riche. Le jeu fait une emphase sur une phrase, je sais pas c'est quoi l'équivalent français, mais c'est for those who come after, genre pour ceux qui viendront après, genre Et c'est une phrase, genre, il la kiffe. Même Guillaume Broche, au discours des Game Awards, il l'a dit, avec un très beau discours derrière, où il fait référence, du coup, aux RPG qui ont inspiré Clair Obscur. Et je trouve ça assez. Même les, il name drop des créateurs par-ci par-là, et je trouve ça assez chouette. Mais dans le cadre du jeu, je trouve que ça limite, ça crée une forme de dissonance, parce que y a cette phrase, pour ceux qui viendront après, il y a tout cet aspect de bah, on fait ça pour les générations futures.
Pour les autres expéditions.
Pour les autres expéditions, ouais. Mais aussi celles qui sont venues avant nous, en fait. Et je trouve que l'un des défauts que j'ai avec la narration environnementale dans le jeu, c'est quand on se balade dans le monde, j'ai pas l'impression de passer après des gens. Je trouve qu'il y a deux manières assez grossières que... Enfin, deux méthodes que prend le jeu qui se trouvent assez grossières pour un jeu de ce calibre. C'est vraiment le côté... bon, il y a des audiologues, je suis en mode level 1 narration environnementale, tu vois, genre depuis le Bioshock 1, on a évolué. Et le second, c'est genre... c'est même ça que je trouve assez grossier, c'est que tu sais, genre, tu vas arriver je crois que c'est vraiment le premier chapitre avec Verso, et t'as genre des montagnes de cadavres d'expéditions, tu sais, qui sont là, qui sont posés, empilés, tout ça et tout, où on t'explique que ouais, ils peuvent pas décomposer, tout ça, ils peuvent décomposer, il y a tout le délire de, oui, tous les grappins, tu sais, que tu vois, c'est en mode, c'est des expéditions, les expéditions précédentes qui ont été là, qui les ont mis en place, genre, en mode, putain, c'est tout, genre, il y a vraiment un côté de, on te fait tout un speech sur le fait qu'il y a eu genre une pléthore d'expéditions avant toi, et il y a certains mondes dans lesquels on est, et j'ai l'impression qu'il y a genre il y a personne qui est passé par là, tu vois. Et moi ça c'est vraiment quelque chose qui m'a un peu frustré, où genre du coup la quête en elle-même, je la trouve un peu individuelle limite, parce que du coup même en termes de scénario, en ouvrant un peu les barrières de l'univers, en fait on se rend compte que bah toutes les expéditions précédentes ont servi un peu à rien, et du coup il y a toute cette emphase de pour ceux qui viennent après, bah elle perd un peu de sa magie et de son sens. En fait, je pense que le jeu aurait vraiment gagné à rester dans un cadre un peu plus fermé. Après, ils font ce qu'ils veulent, tu vois, c'est leur choix narratif, mais ça marche pas, vraiment ça ne marche pas, et je pense que c'est ça qui je trouve est assez dommage avec ce titre, qui du coup genre se perd un peu à vouloir peut-être en faire trop, et voilà.
Ne quittez pas. Vous êtes toujours sur le 93.9 FM. Vous écoutez RNG.
En fait, t'as l'impression qu'il n'y a pas eu d'autres expéditions avant la 33. Il n'y a pas la 33e, hein, qui est genre en gros la 60 et quelques, qu'on part de 100 pour aller à 0 au niveau des expéditions. Je ne sais même pas si on l'a résumé, mais juste en gros, oui, le scénario, mais vraiment, c'est juste. Chaque année, il y a un gommage, c'est-à-dire qu'il y a une peintresse géante à une lumière.
Une divinité,
qui met un chiffre sur un monolithe, et le chiffre qui est inscrit sur le monolithe efface, gomme toutes les personnes qui ont atteint cet âge. Donc, normalement, l'idée, c'est que ça commençait. En théorie, c'est ça, hein, dans l'or, c'est. Ça commençait à 100, 99, 98, donc ça a éliminé toutes les personnes plutôt âgées. Et maintenant, c'est ceux qui ont 34 ans. La prochaine année, ce sera donc ceux qui ont 33, ou c'était là 33, donc ça va être 32. Et ainsi de suite. Donc il y a toute cette espèce de course contre la montre pour se dire comment on va sauver les générations futures et tout. Sauf que, oui, en effet, déjà, à partir du moment où on te dit tout est dans une peinture, ça devient un peu caduque. Quand tu te dis, oui, genre Maël veut sauver cette peinture et c'est. En gros, elle veut sauver ses Sims. Genre, où ça sauvegarde d'Animal Crossing, globalement, non. C'est ça le scénario, quoi. Je dis, ok, mais, genre, moi, le vrai souci que j'ai vis-à-vis de, ouais, les expéditions, comme tu dis, c'est que quand t'explores le monde, je trouve ça intéressant qu'on se dise, ah bah, t'as un drapeau, l'expédition 68 est passée par là, ou la 53e, un peu comme des troupes, du coup, t'as, ouais, un petit message, un petit vocal et tout à écouter. Sauf que, en termes de narration environnementale, t'as pas grand chose qui t'appuie que ah ils sont passés par là, genre ils ont creusé tel passage, ah ils se sont aventurés sur tel terrain. Je crois qu'il y a une seule expédition qui est vraiment narrativement intéressante ou pertinente, c'est celle où on te dit ah c'est des grimpeurs, c'est des mecs qui ils ont escaladé le continent et du coup en effet ils ont laissé des traces de grappins et tout. Je dis mais du coup ils ont été partout.
Ouais, c'est ça.
Donc en soi ça fonctionne comme explication de lore, mais ça vite entre guillemets, une conclusion où tu te dis oui, bon, c'est fonctionnel, mais si tu creuses un peu beaucoup, ça tient pas, entre guillemets, trop la route. Et moi, non, un autre défaut que j'aimerais évoquer, et là, c'est plus vis-à-vis de la réception qu'a eu le jeu, il y a eu beaucoup de débats sur l'aspect un peu politique de Clair Obscur, et je pense que c'est allié, en fait, au scénario. Je pense que c'est maintenant qu'il faut en parler, on parlera de la technique juste après, Mais s'il fallait avoir parler de ce steak-là, moi je pense que en effet, c'est pas un jeu de facho, mais c'est un jeu de bourgeois. C'est un jeu de bourgeoisie. C'est un jeu qui parle de bourgeoisie. Pour une raison très simple, c'est que lumière, ce Paris fantasmé, tout ça, idéalisé ou autre, même si, ok, c'est de la fantasy, de la fiction, évidemment, et que, en effet, le jeu te le fait un peu de façon méta en disant, ah, c'est une peinture, c'est une projection. Cette projection-là, elle vient de qui ? Elle vient de Renoir, Maël, sa famille, de Verso, du coup.
Les deux cendres, je crois, c'est plus c'est quoi dans
le Ouais, c'est ça, les deux cendres, donc une famille aristocrate. Et en fait, les personnages qu'on suit, c'est Verso et Maël. Et à un moment donné, en me faisant une réflexion vis-à-vis du scénario, je me suis dit, en fait, c'est con, mais si tu l'analyses de façon bête et méchante, comme tu analyserais un film ou un livre, le fait est que tu vas suivre Verso et Maël, que ce soit leur histoire, que Gustave est un peu un invité là-dedans, quand tu élimines Gustave, te dis, bah en fait, non, ce qui nous intéresse, c'est cette famille. Ce qui nous intéresse, c'est cette histoire, c'est cette bourgeoisie qui, par rapport à un deuil, préfère s'isoler dans une peinture, vivre dans un monde fantasmé. C'est plein d'idées qui sont hyper intéressantes. Hein. Par contre, je dis pas le contraire. De refuser d'affronter la réalité.
Mais ça parle de deuil, tout simplement.
C'est intéressant. Mais il y a plein d'éléments où je me dis, en fait, le jeu place pas vraiment de distance entre cette vision fantasmée et, entre guillemets, les gens qui vont se la réapproprier. C'est pas la faute de Sandfall si les pépés Fleur de Lys et les mecs qui vont voter Rassemblement National ou Extrême Droite en 2027 vont avoir un coup de cœur pour le jeu, c'est vrai. On peut pas leur en vouloir d'avoir fait un titre qui leur plaît. Mais on peut leur en vouloir de pas l'avoir conscientisé ou de pas avoir conscience que le jeu est dans le formol. Il y a une espèce d'idée de vieille France où il vient jamais trop te la remettre en question ou te la questionner.
C'est très naïf comme approche.
Et c'est très naïf. Et je pense que il y a plein d'éléments qui concordent sur ce truc de... En fait, ils font une lettre d'amour à la France, mais c'est la lettre d'amour que faisait l'introduction de la Coupe du Monde de rugby. C'est ce truc...
Ouais, genre lettre d'amour à la France, en fait, c'est le cinquième arrondissement, la France en
ouais,
question.
Et c'est la France d'avant, c'est la France des Lumières, c'est la France du 18e, 19e. Et moi, je trouve que, par exemple, avec la musique, c'était Laurent Testard qui disait « On a cherché à faire de la qualité. » Et du coup, il évoque dans une interview que la musique, en gros, c'est une langue inventée. C'est une sorte de ça ressemble à du français, mais c'est pas du français au début, mais que ça se délie au fur et à mesure. C'est-à-dire que le thème que tout le monde connaît et entend, plus tu vas avancer dans le jeu, plus tu comprends les paroles, Alicia, nana et tout, ce que ça évoque vis-à-vis du commage et de la peintresse. Et pour moi, c'est un peu une métaphore du jeu, en fait. C'est qu'au début, tout paraît en mode vision déformée de la réalité, de Paris, de la France, de ce fantasme franco-français. Et en fait, plus on avance, plus on se dit, ah bah, en fait, non, il faut qu'on retourne à une entité très précise. Il n'y a pas de distance entre le fantasme et la réalité. Là, ce qu'on vous présente, c'est une France qui est genre marinière, baguette, Big Fernand, béret. Et on aura beau me dire, oui, c'est une blague, le coup du mime et tout. Et en effet, ils ont fait ça avec une sorte de trailer, je crois qu'il s'appelle le Wii Baguette Trailer ou un truc comme ça.
Un peu de sérieux deux secondes, en fait. C'est genre, non, mais respectons-nous.
Tu vois, c'est que, oui, c'est un cosplay facile à faire. Sauf que, tu sais, je pourrais dire pareil, en mode, tu mets un petit brassard rouge avec une petite croix sur l'épaule. Et en fait, ouais, c'est un petit cosplay sympa à faire en convention à la Comic-Con. Eh, hey, il te faut un bout de tissu et un feutre. Sauf que c'est répréhensible par la loi, en fait.
Ouais, c'est ça.
Donc...
ça va vite, les gars. Bellec.
Donc, à un moment donné, ça a un symbole de venir avec un béret, une marinière, une baguette. On pourrait dire, oh, mais forcément, maintenant, c'est un truc de... Enfin, vous voyez ça comme un symbole de facho ? Non, mais ça peut l'être. Et c'est juste avoir conscience de... faire gaffe à certains des signes qu'on utilise. C'est que oui, le côté haussmannien, ce côté boulevard, ce côté juste bourgeois, il va sympathiser avec certaines personnes. Et je pense que juste, voilà, le jeu le conscientise pas assez, ou en tout cas, genre, avoir un tweet qui dit « Ah non, mais on n'aime pas les extrêmes, c'est trop lisse. » Et je trouve que pour un jeu qui maintenant est devenu un phénomène mondial...
bah, il y a une part de responsabilité.
Il y a une part de responsabilité vis-à-vis de comment les gens vont ouais, traiter ton œuvre. En fait, ça coûte rien de dire « Ah non, on n'est pas d'accord avec vous. » Au-delà même de ce que je peux penser du jeu, et de ce que j'en tire comme leçon, comme message, parce que pour moi, ça reste, voilà, pas un jeu de facho, mais un jeu qui parle de bourgeoisie et un jeu bourgeois, et ce n'est pas grave. On est en 2025, donc les romans épistolaires ou autres, moi, ça m'intéresse plus tant que ça. Ou en tout cas, j'ai besoin qu'on me les contextualise avec notre époque actuelle, mais chacun fait ce qu'il veut. Juste, voilà, il y a une responsabilité, comme dit Swill, à avoir une œuvre qui flirte avec cette vision d'une France fantasmée. Et non pas avec une autre. Genre, je sais que Swill parlait, juste là, on était à un café avec un pote, avec Noé, shout out. On parlait de comment Disco Elysium est peut-être un meilleur hommage à une France plus moderne et contemporaine que Clair Obscur. En effet, ils n'ont pas la même volonté, mais il y a ce truc où, en tout cas moi personnellement, c'est vrai que je me sens plus représenté ou plus en France quand je vois un Disco Elysium qui se passe même pas dans une France, hein, mais je crois que c'est des Estoniens, ouais, les développeurs qu'on en a parlé. Ouais. Mais il y a un truc où leur rapport à la littérature, tu sais, genre le côté un peu gréviste, social et tout, ça te parle sur la réalité que tu vis, alors que, oui, non, je suis pas vraiment sensible ou en tout cas familier avec ce que vont vivre Maël et Verso dans Clair Obscur.
Et moi, du coup, même pour prendre ta passe D, je suis totalement d'accord. Et moi, je pense qu'à partir de là, j'ai envie de build sur une idée un peu plus globale sur l'écriture, tout simplement. En fait, moi, je me suis vraiment posé les questions. Quelles étaient les motivations des scénaristes? Qu'est-ce qu'ils voulaient représenter à partir du monde de Clair Obscur? Et moi, dans ma tête, j'ai toujours Disco Elysium et A Plague Tale en tête qui, voilà, comme tu l'as dit, Disco Elysium, à travers Revachol, à travers ces personnages-là, arrive plus à nous donner voilà, comme tu l'as dit, un ressenti de ce que ça fait d'être français. Et même à travers, je trouve, l'usage de la langue, le fait qu'on est dans un monde où, dans Disco Elysium, où la langue principale est le français. Et le français, quand je vois l'approche que peut avoir Soundfall Interactive quand on joue avec, du coup, la langue française, je trouve que c'est un aveu de faiblesse d'écriture qui n'a pas de sens. En fait, ça n'a pas de sens d'avoir cette approche-là si t'es français. Pour moi, en fait, ce jeu veut trop fit sur une interprétation, sur une vision qu'ont les gens à l'international de la France. La musique du jeu prend sens, en fait, si tu ne parles pas français. Il y a vraiment cet aspect où je me dis, quelqu'un qui ne parle pas français, il va se dire, ouais, c'est du français, tu sais, genre, il va pas se poser la question parce qu'il parle pas français. Alors que moi, en tant que joueur français, je me dis, mais ça, l'approche ne fonctionne pas, en fait. Et le jeu veut trop fit, en fait, j'ai l'impression, sur cet aspect-là. Et pour moi, la consécration, c'est quand je les vois habillés de cette manière au Game Awards. C'est genre, ils font ce qu'ils veulent. C'est genre, j'en ai rien à secouer. Ça m'a pas empêché de dormir, loin de là. Genre, mais il y a quand même ce truc de, eux, ils trouvent ça rigolo. Ouais, mais on sait très bien que cette image-là, genre, en France, personne ne l'a...
Elle n'est pas anodine.
Ouais, elle est pas anodine. On la confirme pas. C'est comment les étrangers nous voient, en fait. Et il y a ce truc de, ça veut tellement fit avec, genre, ce délire que peuvent avoir une forme de bourgeoisie de... l'image qu'on peut avoir à l'international. C'est-à-dire, genre, on veut tellement plaire, tu vois, au monde, ce truc très français de on a une forme d'hégémonie culturelle et tout, on est les meilleurs en musique, on est les meilleurs là-dedans, que du coup, genre, on va limite un peu se travestir pour plaire un peu à la galerie. Et je trouve ça quand même assez faible, où vraiment, moi, quand je joue un jeu comme Clair Obscur, je fais nom de la tête. Je fais nom de la tête et je trouve ça assez dommage que du coup, genre, des jeux juste comme A Plague Tale, qui est fait par, j'ai l'impression quand même, un studio double A.
Ah, c'est un studio double A, oui.
Vraiment, de double A qui peut être assez équivalent, qui viennent de Bordeaux, je crois, en plus, donc c'est des voisins, limite. Je crois que c'est des Bordelais. Et ils arrivent à faire quelque chose de très simple de c'est quoi le fait d'être un peu un enfant en France, parce qu'on joue Alicia et j'ai oublié le nom du gamin.
Hugo.
Et on va être perdu dans cette France moyenâgeuse et ça arrive à marcher sur le fait de ouais, en France, on est tous à proximité d'une cathédrale, on est tous à proximité d'un château, je veux dire, je sais pas combien de châteaux en France. C'est ça aussi le sentiment, peut-être, c'est quelque chose qu'on peut se... Ça fait partie de l'esprit commun, tu vois. C'est un truc sur lequel on peut vite, on a tous visité un château quand on était petit. Moi, je pense, je sais pas, moi, en Champagne, je sais pas, à Provins, quelque chose comme ça. Ouais, voilà, tu vois, on a tous au moins visité un château une fois, et c'est quelque chose sur lequel on peut se reposer. Et A Plague Tale arrive à transmettre une forme de culture française à travers ça, tu vois. Mais Clair Obscur, je trouve que ça vient un peu et ça prend sens un peu quand j'apprends que la personne qui a écrit le jeu est d'origine américaine, tu vois, et que c'est une poto qu'ils ont trouvé sur Reddit. Je trouve ça assez dommage parce que du coup là le jeu est d'une faiblesse d'écriture, je trouve, assez criante. Et derrière, moi je serais pas là à dung sur le jeu si c'était juste un jeu random. Ok, non, c'est un jeu, genre, c'est le deuxième jeu qui a reçu le plus de titres de jeu de l'année derrière Elden Ring. Il est genre à 350, un truc comme ça, il a dépassé Last of Us 2. C'est pour vous montrer le range dans lequel s'inscrit Clair Obscur. Et tout cela, pour moi, genre, est d'une médiocrité sans nom en termes d'approche. Et je trouve que on est quand même face. Et là, c'est le moment un peu, genre, je trouve que c'est un take de boomer, mais qui est intéressant d'analyser pour mettre un peu en perspective les scénaristes de jeux vidéo. On a l'impression, tu vois, quand je compare les gens qui ont pu écrire Disco Elysium et les gens qui ont pu écrire Clair Obscur, il n'y a pas les mêmes références. Il n'y a pas les mêmes références. Et je ne dis pas qu'il faut réviser ces classiques. Je ne dis pas que... aller lire Victor Hugo, tu vois. Mais les gars, si vous voulez représenter Paris, je veux dire, il y a énormément d'artistes qui l'ont fait. Et j'ai l'impression que le jeu est d'une naïveté sur la manière de vouloir représenter ces choses. Et je veux dire, quitte à vouloir fit dans une vision extérieure qu'à Paris. Lisez Hemingway dans Paris est une fête. Genre, il y a tout cette approche-là qui peut être hyper intéressante sur l'image de Paris qui peut être un peu débridée à l'international. Et c'est quelque chose d'hyper intéressant à traiter. Mais le jeu le met juste en surface, il cuisine pas ça. Et moi, ça qui m'énerve, c'est un jeu qui manque un peu de steak, qui manque un peu de nuances. Et moi, c'est vraiment quelque chose qui me frustre dans un jeu qui peut avoir autant de popularité, parce que du coup, ça dans cet aspect modèle à suivre, je trouve qu'on tend plus vers une médiocrité qu'autre chose.
Pour rebondir sur Swill, je pense que le scénario a toutes les armes pour être bon de A à Z. Je pense que vraiment, ce qui lui fait défaut, c'est après la mort de Gustave, c'est le développement de Verso, et au-delà de leur développement, c'est l'idée de la peinture, en fait, de l'aspect méta du jeu, où suffirait juste de contextualiser en quoi les aristocrates qui font des peintures pour échapper à la réalité et donc rester dans un imaginaire en mode comment ça résonne avec tout le monde, en se disant ah oui, c'est des mecs qui fuient la réalité, qui sont déconnectés de la réalité, ok.
Et de la société, que... MDR, voilà. On touche un truc peut-être.
Sauf que le jeu ne le développe pas en fait. C'est que ça, c'est quelque chose que je vais extrapoler moi en me disant ok, voilà les personnages que le jeu met en avant et tout. Mais lui, il en a pas spécialement conscience. Le jeu va pas te les critiquer ou te les remettre en perspective. La seule perspective que le jeu propose, c'est qu'est-ce que c'est triste d'être une meuf qui est en train de traverser un deuil ou qui a perdu plus sa sœur brûlée ou j'en sais rien et qui du coup doit jouer à son Tamagotchi pour échapper à la souffrance. Globalement, c'est ça que le jeu dit et c'est pas genre ah, c'est la première couche, il y en a d'autres. Non, c'est que le dilemme final que le jeu veut traiter, c'est ça. Et on le voit avec l'introduction de Lumière aussi. C'est pas genre un millefeuille, c'est que on retrouve jamais vraiment ce Paris une fois qu'on l'a quitté pour le continent. Et la façon dont on traverse les marchés, les gens qui sont là avec les petites fleurs, le combat d'escrime.
Les enfants avec les grosses têtes.
Voilà. Il y a un truc où... En fait, c'est un peu similaire à du Bioshock ou Bioshock Infinite, que je trouve est très bon là-dessus, où t'as vraiment l'admiration et l'émerveillement des premières minutes qui s'effondrent quand tu vois que Columbia est foutu par le racisme et vraiment et plein de trucs galopants et tout ça. Mais là, je trouve que le jeu vraiment va pas creuser ça. Il te creuse que la fatalité de la peintresse. Et quand il te dit « Ah, pourquoi c'est pas bien d'être méchant ?» C'est parce que, ok, elle est en deuil ou elle essaie de faire sortir sa fille de la peinture. Et du coup, c'est une histoire qui est très personnelle. C'est une histoire familiale. Et je pense que c'est le problème de Clair Obscur. C'est que c'est un jeu qui n'a pas conscience
des éléments qui mettent en place.
Voilà. Et je pense que, comme dit Swill, le fait est que la scénariste, co-scénariste, je crois qu'ils sont quand même deux, Guillaume Broche, du coup, avoir participé et américaine, je pense que ça joue. Et bref, pour la conclusion, la question qu'on se posait avec Swill, c'est est-ce que Clair Obscur est un modèle à suivre ? Et moi, je me suis noté cette phrase, cette formule qui avait été faite pour un autre RPG il y a 2 ans, peut-être que les gens ont déjà oublié, Baldur's Gate 3.
Ah !
Parce que c'était déjà ce qui avait été dit à sa sortie. Les gens disaient Baldur's Gate 3, fait donc par l'Ariane Studios des Belges, c'était genre. Peut-être que c'est un jeu à suivre. C'est un modèle où le jeu est tellement polish, fini, propre, et c'est le GOTY, qu'on se dit, voilà vers quoi l'industrie doit tendre. Des jeux qui n'ont pas de microtransactions, qui ne coûtent pas 80-90 euros, etc., etc. Je pense que du coup, il y a le même narratif là avec Clair Obscur qui se dessine. Hein. S'il a gagné, c'est tout le monde dit, c'est une leçon pour l'industrie. Parce qu'on se dit, c'est 5 ans de développement, avec un budget donc de 10 millions de dollars. Face à des 100, 200 millions quand on
350 parle de AAA. Millions pour Concorde.
Et en fait, je pense que oui, c'est un modèle à suivre sur un peu sa production. L'idée que ce soit comme une petite équipe qui peut prendre des décisions assez rapides. Quand ils expliquent que la mocap, il y a eu une nouvelle technologie qui est arrivée, d'une semaine à l'autre, ils ont pu dire on change le planning, on utilise du coup telle tech. Dans une entreprise avec plus de 100, 200, allez, 1000 employés, on en connaît. Oui, c'est hyper compliqué. Donc, il y a des leçons à prendre, en fait, de la façon dont le jeu a été produit et créé. Mais je pense que, c'est un truc qu'ils ont souvent dit en interview, ils avaient la tête dans le guidon Je pense que c'est un des problèmes. C'est que, genre, malgré tout, s'ils font une suite et ils veulent en faire une, hein, je vais citer Guillaume Broche pour
IGN. Ils travaillent déjà dessus. Hein.
Ils ont dit, même si on attend de nous quelque chose de supérieur et que ça ajoute une certaine pression, on a aussi bien conscience qu'on ne part pas du tout du même point. On a appris à travailler ensemble, on est plus fort de ce premier succès. On veut donc faire un prochain grand jeu tout en gardant la philosophie Sandfall qui a fait notre première réussite. Donc ils sont là en mode, ok, on a plus de pression. Guillaume Broche dit qu'il veut améliorer le jeu, qu'il veut faire encore mieux pour lui, il y a moyen et tout de s'améliorer. Donc ils ont conscience qu'il y a des défauts. Et je pense que c'est un peu le truc, c'est que le jeu était tellement dans son jus qu'il y a des décisions de game design ou en effet ouais, d'écriture, je trouve juste maladroite en fait. Où je pense qu'il suffirait juste d'avoir un peu plus de consulting en fait, des gens qui viennent, qui font des retours et tout ça. Et le jeu pourrait être beaucoup plus
ample.
Ouais, mais genre mieux fini en fait. Je trouve qu'il a quand même un côté un peu brut. Qu'on peut pas lui reprocher aussi. C'est un premier jeu, il a coûté que 10 millions de dollars. Mais ouais, genre, par exemple, l'aspect technique, c'est un des éléments qui, moi, je sais, a beaucoup rebuté Swill, ou sur console, le jeu sur PS5, le mode performance, c'est du 800p, c'est très aliasé, il y a beaucoup de bruit parce que le jeu utilise les lumens, donc le ray tracing software, donc logiciel de l'Unreal 5. Et même si c'est un moteur graphique qui dispose de beaucoup d'outils, et qui permet en fait de créer ce genre de jeu quand t'es maintenant une petite équipe, qui n'aurait pas été envisageable il y a quelques années, bah, on doit encore le maîtriser. Je pense qu'il y a encore un rendu visuel où en fait, le jeu n'en vaut pas la chandelle, entre guillemets. Il y a trop de sacrifices techniques pour que le jeu tourne bien, et c'est dommage, quoi.
Non, je suis assez d'accord, surtout qu'en termes de présentation, les animes faciales, parfois c'est pas au rendez-vous, il y a des choix de direction, en mode, tous les persos ont quasiment tous les cheveux fins, et quand il joue en 800p, tu vois, c'est pas très très... C'est un jeu qui est assez baveux quand même pour un jeu PS5. Et après, voilà, c'est un premier jeu, j'ai envie de dire, mais on est clairement sur du Unreal Engine 5 de bas level quand même. C'est pas un jeu qui va se démarquer par son aspect technique. Loin de là. Donc, non, c'est assez frustrant, mais en termes de conclusion, mais moi, j'ai envie de dire, genre, il y a un côté un peu mid. Moi, je sais pas, j'aime pas mettre des notes à des jeux. Genre, vraiment, c'est pas un truc que j'aime. J'aime bien le faire pour le cinéma ou d'autres trucs, mais pour le jeu vidéo. Mais je me suis dit, en fait, Clair Obscur, c'est. Pour moi, c'est vraiment un 6,5. Un 6,5 dans le côté de. Je suis gentil avec lui parce que c'est un premier jeu. Je trouve qu'il a beaucoup de richesses. Mais derrière, il y a une sorte un peu de médiocrité, un peu sur pas mal de points, qui fait que l'expérience générale est pas spécialement kiffante sur genre 25-30 heures. Dieu merci, le gameplay est bon, et je pense que c'est la meilleure chose que j'aurais pu leur souhaiter, c'est-à-dire, purée, genre, vous avez votre premier jeu, vous avez déjà, on va dire, une forme un peu de culture, de savoir-faire, en mode, vous avez un axe sur lequel travailler, il y a encore plein de choses hyper cool qui peuvent être faites avec, on sent qu'ils ont beaucoup d'idées, et ouais, je pense que, overall, c'est un jeu qui, en termes de modèle à suivre, oui, bien évidemment, genre, on veut que ce soit un jeu fait par passion, par des développeurs, mais... Purée, les gars, faites-vous relire. Genre, vraiment, faites-vous relire. ou genre vraiment, allez chercher des références. Parce que vraiment, on sent qu'il y a eu un travail de fou qui a été fait sur le gameplay en termes de ça. Vraiment, ils sont allés chercher là où il faut. Chez Persona, chez Final Fantasy, comme tu l'as dit, Mario et Luigi. Et ils ont réussi à déjà créer une structure assez bonne là-dessus. Mais sur d'autres aspects, c'est genre, c'est... Il y a quand même ce truc de...
En fait, ça suffit pas.
Ça c'est suffit pas. C'est un peu ce
truc où... Merci. Ou en fait, ça suffit pas à l'échelle ou aux ambitions qu'aspire le jeu. C'est-à-dire qu'en fait, c'est que pour moi, on juge une œuvre à l'aune de ses ambitions. Pour moi, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est qu'un jeu qui, genre un Golf of Your Friends, je peux lui dire non, mais narrativement, en termes de gameplay, gros et tout. Non, c'est un jeu qui est là pour que tu puisses jouer avec tes potes ou écouter un podcast à côté et c'est tout. C'est une base. Là, Clair Obscur, il se dit, avec notre budget et tout, on veut faire une expérience hautement cinématographique. Avec des personnages avec un doublage où t'as du Andy Serkis, du Ben Starr, Charlie Cox de Daredevil, enfin vraiment il y a un casting 5 étoiles dans la VA, la version anglaise. Enfin, le jeu a des ambitions énormes et honnêtement on peut que les féliciter. Moi il y a une part de moi qui veut les encourager forcément et qui les encourage à continuer évidemment, et ils vont le faire dans tous les cas, mais à partir du moment où ils ont ces ambitions là, c'est aussi un peu de bonne guerre de se dire ok, là, vous êtes le deuxième jeu le plus récompensé de tous les temps. Ok, bah dans ce cas-là, il faut être un peu plus sévère. et être un peu critique en fait. Et je pense que on peut être critique de Clair Obscur. C'est pas parce que c'est des mecs de Montpellier et qu'on est quand même un peu chauvin qu'on peut tout lui excuser ou juste pas faire attention à ses aspérités. Il y a des aspérités, il y a des problèmes, que vous aimiez ou non le scénario. L'inventaire, il est dégueulasse.
Le menu est dégueulasse.
Le menu est compliqué. L'exploration de la carte, moi je trouve ça cool qu'il n'y ait pas de minimap. Juste, tu l'évites après avec Morocco.
Esquier, pardon.
Avec Esquier. Et en fait, ouais, tu peux explorer la map et tout comme ça. Il y a de la verticalité, c'est cool. Je trouve que c'est beaucoup d'idées qui, dans l'exécution, sont un peu branlantes. Genre vraiment au sens de... Elles n'arrivent pas totalement à fonctionner. Pareil sur le level design où il disait « Ah, on ne voulait pas vraiment tenir la main des joueurs, donc vous pouvez vous perdre et aller où vous voulez. »
Mais le jeu n'invite pas spécialement de manière implicite.
Il n'invite pas spécialement à l'exploration. Il y a un peu ce truc où...
C'est une bonne idée, mais dans l'exécution, c'est très mal fait.
C'est ça. Pour moi, la plus grosse leçon que peut tirer l'industrie, en tout cas les JRPG, c'est 30-35 heures, c'est une bonne durée de vie. Les JRPG rallongent. J'aime beaucoup FF16, hein. Je sais que ça fera débat, il y a des gens qui disent que c'est pas bien, mais ouais, il y a des moments de creux où tu fais 2-3 heures de quête FedEx, Dieu merci, Clair Obscur a la décence d'éviter en fait ce genre d'écueil, parce que je pense que les devs n'aiment pas ça non plus. Donc il y a plein de belles choses et de bonnes choses à tirer de Clair Obscur, mais il y a aussi une sorte un peu de hola que moi personnellement j'aimerais mettre, en mode, ouais, s'il y a une suite, il faudrait éviter ces écueils, parce que ça peut pas ruiner l'expérience, mais ça l'entache. Ça, pour moi, ça l'empêche de venir justement dans cette sphère de les plus grands jeux jamais faits. Pour moi, personnellement, c'est plus un 8 sur 10 parce que j'aime vraiment beaucoup Gustave, le gameplay, les musiques. Je trouve qu'il y a des musiques qui fonctionnent très très bien, d'autres que je trouve très kitsch, mais il y en a que je trouve vraiment belles. Et malheureusement, c'est ça, c'est que l'enrobage est pas parfait. Et même sur PC à sa sortie, hein, c'était un petit peu compliqué. Donc, ouais, l'industrie, les double A, on en a besoin. La conclusion, je pense qu'on voudrait faire avec Switch, c'est que le double A, c'est un peu la solution vers laquelle l'industrie va se tourner, vu qu'on ne peut pas tenir des budgets à 500 millions, des jeux qui ont 8 ans de développement, qui durent des gènes entières, en fait.
Mais derrière, on ne peut pas aussi se contenter de quelque chose qui est très mid, en fait. Le double A doit se sortir de cette image-là, en fait, comparé au triple A, de sous de triple A, ce qui n'est pas le cas. Le double A peut avoir sa propre culture, sa propre image, et je trouve que en mettant Clair Obscur trop en avant, on l'accepte trop avec ses défauts. On les laisse trop passer et je pense qu'il faut quand même une certaine... Il faut qu'on ait la même critique envers Clair Obscur qu'on peut en avoir pour d'autres jeux, en fait, le même esprit critique et genre ne pas laisser... Parce qu'il y a certaines choses qu'on laisse passer avec Clair Obscur qu'on peut ne pas laisser passer ailleurs, en fait. Je trouve qu'il y a... C'est ça qui, moi, m'agace un peu. Et forcément, le storytelling fait que c'est un peu le chouchou. Donc voilà. C'était RNG, voilà, épisode sur un titre en particulier, voilà, le troisième de la liste, mais je pense pas que ce soit le dernier jeu qu'on traite cette saison. On verra dans quelques mois qu'est-ce qu'on fait. C'était Clair Obscur Expedition 33, le jeu de l'année 2025. 2026, il y a aussi du très 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 lourd qui arrive. Et voilà, mot de la fin, Ulysse, peut-être.
Ouais, et puis on espère que le meilleur quand même à Sandfall Interactive, voir ce qu'ils vont pondre pour leur prochain titre, parce que là, ça reste un beau coup d'éclat. Espérons que c'était pas juste un coup de chance, ce qu'eux aussi ils disent, et je pense que c'est pas le cas. Je pense qu'ils peuvent pondre une excellente suite. Il y a matière à faire encore mieux. Donc pour les autres jeux qui viendront après, let's go.
C'est parfait. C'était RNG, Radio Campus Paris 93.9 FM. On se dit au revoir, disponible sur Spotify, Apple Podcasts, et le site de Radio Campus. Je vous dis au mois prochain.
Yes, allez, salut.
Ciao.